c'est la Toussaint. Les professionnels de la mort nous abreuvent de leur offre commerciale. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans Service Public, nous allons préparer notre grand voyage, un service public spécial mort. Déjà mourir, c'est pas facile, mais en plus, ça coûte cher avec vos appels d'ici ou de l'au-delà au 01 45 24 7000 sur la page Facebook de l'émission, mais aussi sur notre compte Twitter, Service Public FI. Ça fait une semaine que l'on parle des clowns agressifs, ça devait arriver, badaboum, c'est arrivé. Un journaliste vient d'être convoqué par le procureur de la République de Douai pour avoir incité un mineur à se déguiser en clown pour faire peur aux passants. Voilà une preuve supplémentaire de l'amélioration par la société médiatique du principe de la prophétie autoréalisatrice. La prophétie autoréalisatrice, vous connaissez, à force de crier au clown, il fallait bien que ceci se produise, se reproduise. Et dans le cas contraire, quoi de plus pratique que de les créer de toutes pièces s'ils ne surviennent pas? Et finalement, les clowns effrayants ne sont que les dernières inventions d'une société du spectacle qui n'en finit pas de préparer son grand Halloween social. Car depuis quelques semaines, le Halloween social a plein de tours dans son sac pour faire peur aux téléspectateurs. Il y a eu par exemple ces Français qui quittaient la sécurité sociale, c'était un raz-de-marée Halloween social. Oui, mais on dénombre moins de 100. Puis les Français qui vont passer leur retraite au Portugal, notre pays n'aurait bientôt plus de vieux, mais là aussi Halloween social. Il doit y avoir moins de 3000 de nos retraités désireux de devenir lusophones. Et enfin, les chômeurs fraudeurs, ceux qui sont en train de ruiner la nation, Halloween social. Les fraudeurs de Pôle emploi coûteraient moins de 1% à l'assurance chômage quand les autres formes de fraude, elles nous coûtent franchement plus cher. Et le voilà le vrai danger. Halloween, c'est une fois par an. L'Halloween social, c'est toute l'année. Pendant l'Halloween social, les clowns effrayants portent nez rouge et grosses chaussures. Le reste du temps, ils se contentent de cravates et de berloutis.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et l'on continue dans Halloween, enfin dans la Toussaint. Nous profitons de l'approche de la Toussaint dans Service Public pour se faire plaisir et parler du grand voyage avec un mot d'ordre, debout les morts. Il va falloir raquer, nous allons voir comment on envisage le trépas aujourd'hui, quelles sont les différentes solutions proposées lorsque nous passerons de l'autre côté. Et pour mieux attendre le grand voyage, je vous le dis tout de suite, Service Public vous en offre un petit voyage tout à l'heure. Le premier auditeur qui trouvera qui est mort par mail dans la scène du film que nous allons vous diffuser gagnera un week-end proposé par notre partenaire, le magazine Avantage. Mais avant cela, je vous présente nos invités. Tout d'abord, Lionel Mauguin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et vous avez signé le dossier Assurance Obsèques, puisqu'on verra si cela en vaut la peine de souscrire un contrat Assurance Obsèques. À côté de vous, Brigitte Sabatier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'AB Crémation, une société qui fabrique des cercueils en carton, puisqu'il faut un cercueil, c'est obligatoire en France,
obligatoire.
Mais on peut avoir un cercueil en carton si on choisit la crémation. Et en face de vous, François Michaud-Nérard, bonjour, vous êtes
bonjour.
Directeur général des services funéraires de la ville de Paris et vous venez de publier une révolution rituelle aux éditions de l'Atelier. Je précise que vous donnez vos droits d'auteur à la fondation du service de la ville de Paris. Et puis enfin, Guillaume Bailly, vous êtes professionnel du funéraire
bonjour.
Et vous venez de publier Mes sincères condoléances aux éditions de l'Opportun, un livre où vous racontez votre expérience de croque-mort. Vous êtes un croque-mort, on peut dire cela.
On peut le dire.
On peut expliquer peut-être d'où vient le mot de croque-mort.
Des épidémies de peste du Moyen-Âge, tout simplement. Les services funéraires de l'époque qui étaient chargés d'évacuer les défunts dont les corps étaient jetés dans les rues, se servaient pour ne pas se contaminer de longs bâtons munis de crochets. On disait qu'ils croquaient les morts.
Et donc
simplement.
Rien à voir avec l'idée qu'on croquerait rien les morts pour savoir s'ils sont morts.
Rien à voir avec les orteils.
Comment choisit-on de devenir croque-mort ?
Alors, si je voulais être sentencieux, je dirais que vous ne choisissez pas les pompes funèbres, ce sont les pompes funèbres qui vous choisissent. Mais plus sérieusement, on devient croque-mort un petit peu par hasard. 99% des gens que j'ai rencontrés sont rentrés vraiment dans ce métier par hasard et ils sont restés par passion.
Et alors vous, votre passion, en quoi consiste-t-elle? Côtoyer la mort tous les jours, est-ce que ça n'est pas extrêmement déprimant, Guillaume Bailly?
On ne fait pas ça pour les morts. Enfin, les morts sont une composante très prégnante de notre activité, mais c'est l'essentiel de notre métier consiste à mettre en place une symbolique pour que les vivants puissent faire leur deuil et passer les différentes étapes du deuil. On en reparlera peut-être, je pense, plus en détail.
Faire passer effectivement les différentes étapes du deuil, c'est en partie votre métier, et il y a un deuil, c'est le deuil du porte-monnaie également au moment du défunt et au moment du départ, car on voit que les obsèques, cela coûte extrêmement cher. Et Lionel Mauguin, c'est un secteur dans lequel on trouve beaucoup d'abus.
Oui, malheureusement, c'est un secteur où on trouve beaucoup d'abus depuis toujours, de tous ordres, des abus en matière quand on prépare ses obsèques avec les compagnies d'assurance. Au moment des funérailles, des obsèques elles-mêmes, les prestations qui sont mal exécutées, et comme vous le dites, le coût des obsèques, hein, on constate que notamment ça augmente plus vite que l'inflation et qu'aujourd'hui ça atteint en moyenne 3 200 € par personne.
Et avec donc, de nombreuses disparités.
Avec de nombreuses disparités. Et puis les abus continuent, j'ai envie de dire, après la mort, parce que l'an dernier on avait mis en évidence un problème, le problème des caveaux inondés. Alors ça, c'est totalement méconnu de la population, mais plus de la moitié des caveaux sont inondés. Et puis évidemment, il y a des abus en matière de services publics, puisque les missions services publics, les funérariums, les crématoriums sont des services publics concédés à des opérateurs privés qui utilisent cette position pour abuser de leur position. Donc il y a beaucoup d'abus dans ce secteur, même si, évidemment, il ne faut pas mettre tous les gens dans ce sac-là.
On va voir comment on peut mourir moins cher, comment débusquer les pièges de la mort, car la mort ne nous fait pas peur. Et d'ailleurs, on va écouter Norah Jones, c'est Goodbye, un disque choisi par Thierry Dupin avec Fabrice Lègle à la réalisation.
Guillaume Herner sur France Inter. Thank you.
Service public sur France Inter, mourir à tout prix, car mourir, je vous l'annonce, coûte 2 mois de salaire en moyenne. Donc il faut commencer à économiser dès que l'on est vivant, en réalité, en prévision de la mort. On en parle en compagnie de Brigitte Sabatier, directrice d'AB Crémation, qui propose des cercueils en carton. Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs. Guillaume Bailly, qui est croque-mort et qui publie Mes sincères condoléances aux éditions de L'Opportun. Et François Michaud-Nérard, qui est directeur général des services funéraires de la ville de Paris et qui publie Une révolution rituelle aux éditions de l'Atelier. Cette révolution rituelle, François Michaud-Nérard, c'est la crémation qui est devenue aujourd'hui extrêmement tendance. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, je ne sais pas si c'est tendance. En tout cas, il y a eu un développement extrêmement rapide de la crémation, puisqu'on est, en une génération, on est passé de 1% des obsèques à plus d'un tiers actuellement. Alors, c'est effectivement une révolution parce que on perd, avec la crémation, on perd un certain nombre de repères ancestraux. On avait l'habitude de mourir chez soi, on était entouré par ses proches, on allait en convoi dans l'église au centre du village, et puis ensuite on allait mettre le mort dans un endroit saint de haut mur qui était réservé aux morts, qui était le cimetière. On mettait même une grosse pierre par-dessus pour montrer la séparation des morts et des vivants. Or, on ne meurt plus chez soi, on meurt essentiellement à l'hôpital de façon solitaire, on n'a même plus de convoi funéraire, souvent, à Paris c'est même interdit. À Paris, toujours, dans 83% des cas, quand il y a crémation, on va directement au crématorium sans passer par un lieu de culte. Et puis, avec la crémation, ben, en une heure et demie, on se retrouve avec un petit pot de cendre qui fait 2-3 litres, et donc qui est nomade, qui peut être dispersé. Et donc, on a perdu tous les repères avec la crémation.
Petit pot de cendre que l'on n'a pas le droit de mettre n'importe où, car l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en France, même dans l'au-delà, il y a un règlement et des lois, et ces lois nous poursuivent bien après notre mort. Il faut tout d'abord avoir un cercueil qui soit homologué, et puis lorsqu'on a une urne funéraire, lorsqu'on décide donc de se faire incinérer, on peut la mettre où ?
Alors, il y a une loi qui est sortie en 2008 qui a donné un statut aux cendres. Avant, il y avait un grand manque de repères pour les familles. Maintenant, il y a une règle qui a été fixée, c'est que les cendres vont au cimetière. Alors au cimetière, elles peuvent être dans une sépulture de famille. C'est d'ailleurs la majorité des urnes qui terminent dans une sépulture de famille. Et il y a toujours de la place, il faut le savoir, contrairement au cercueil. Deuxièmement, on peut les mettre dans des cases de columbarium ou en terre dans des caves-urnes, qui sont des sépultures pour urnes, ou on peut faire une dispersion au jardin du souvenir du cimetière. Et la seule exception qui est prévue à cela, c'est une dispersion en pleine nature, donc pas dans le jardin de la propriété. Hein. Donc c'est en pleine nature, dans un lieu qui est accessible à tout le monde. Et pour que tout le monde sache où c'est, il y a une déclaration qui doit être faite au lieu, à la mairie du lieu de naissance du défunt.
Voilà. Donc mourir, vous l'entendez, c'est compliqué. On va essayer d'alléger le grand voyage tout à l'heure en vous proposant un jeu concours qui vous permettra, grâce à notre partenaire le magazine Avantage, de gagner un petit voyage, un week-end, si vous reconnaissez le mort dans l'extrait de film que l'on vous diffusera. Mais en attendant, voici Michel, un auditeur au 01 45 24 7000. Bonjour Michel.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Michel.
Bien, moi ça va rien me coûter. J'ai trouvé un moyen pour ne pas payer. Il suffit, si j'ose dire, de faire don de son corps à la science. Donc j'ai écrit à l'école de chirurgie de Paris, 7 rue du Fer à Moulins, dans le 5e. Et puis j'ai reçu un questionnaire. On m'a demandé d'envoyer une photographie. Et j'ai une carte.
Photographie, pourquoi ? Parce qu'ils font du casting maintenant ?
Non, ils font pas. Enfin, j'espère pas encore.
Vous avez mauvaise mine, quoi.
Arrêtez. Non, mais en fait, il ne s'agit pas de donner ses organes, hein, parce que moi j'ai 65 ans, donc mes organes n'intéressent plus personne à cet âge-là.
C'est pas vrai, faut pas dire ça, Michel.
Mais c'est ce que ma mère avait fait, et c'est gratuit. Donc ça coûte un timbre pour faire la demande. Ensuite on reçoit cette carte et mes proches le savent, et donc le jour où je décéderai, ils ont un numéro de téléphone, ils appellent, on vient chercher mon corps, les étudiants en médecine vont pouvoir le disséquer et s'amuser avec, et ça coûte zéro.
Michel, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. parce que dans le studio, oui, mes invités ne sont pas d'accord avec vous. Apparemment, ça n'est pas si gratuit que cela, François Michaud-Nérard.
Alors, si, enfin, en tout cas, c'est un acte gratuit, généreux, que
désintéressé. Votre...
désintéressé. C'est effectivement utile pour la science. Il faut aussi savoir penser aux proches.
Non, mais tout ça, on le sait, François Michaud-Nérard. Mais est-ce que c'est gratuit ?
Alors, c'est effectivement gratuit dans certains centres. Il y a certains centres qui font payer, enfin qui demandent une petite indemnité. Mais là, je voudrais vraiment dire quelque chose. Il y a 2600 personnes en France chaque année qui décèdent et qui ont donné leur corps à la science. Dans les 24 heures, leur famille, on enlève le corps aux familles. Et souvent, elles ne savent pas qu'elles peuvent organiser des obsèques. Elles ne savent pas qu'il peut y avoir de lieux de mémoire. Et il y a une étude, alors, il y a actuellement une étude universitaire qui est menée, qui va déboucher sur un certain nombre de préconisations. Et puis, par exemple, au crématorium du Père-Lachaise, dès le mois de janvier prochain, et deux fois par an, il y aura une cérémonie du souvenir pour tous les proches qui n'ont pas pu organiser les obsèques, parce que ce n'est pas toujours facile pour les proches de se voir enlever le corps de leur défunt.
Guillaume Bailly, vous qui êtes croque-mort.
J'ajouterais que ce n'est pas totalement gratuit non plus, dans le sens où bon, la faculté de médecine de Paris est certainement très riche, mais beaucoup de facultés de médecine demandent aux personnes qui font don de leur corps à la science de, en plus, payer le cercueil dans lequel leurs restes seront crématisés. Donc ça coûte, même si on prend un cercueil bas de gamme, 400-500 euros, mais il y a quand même un petit coût.
Et la mort n'est toujours pas remboursée par la sécurité sociale, surtout qu'un enterrement peut coûter cher, très cher. Bonjour Lénora Krief. Vous êtes allé visiter des pompes funèbres de luxe. Ben oui, ça existe.
Et oui, en marge du marché du funéraire à Bakou, on voit aussi se développer des pompes funèbres sur mesure. C'est le cas de la marque Alteriva, un espace qui vient d'ouvrir au mois de septembre dans le 16e arrondissement de Paris, rue de la Pompe. Alors l'emplacement est bien choisi pour le jeu de mots, mais aussi pour la clientèle. On a souvent une image assez triste et sombre de ces entreprises du service funéraire. Et là, en arrivant, je trouve un local spacieux, clair, moderne, avec des fauteuils en cuir beige.
Ça avait été conquise.
Des plantes vertes, une musique zen en fond sonore. On se croirait vraiment dans un institut du bien-être haut de gamme. Et puis là, c'est une femme élégante qui vous accueille. Plutôt que de parler de croque-mort, Valérie Guillot-Sioneste parlerait plutôt de croquer la vie. À 55 ans, la fondatrice d'Alteriva est une professionnelle de la communication. À l'entrée, on trouve ce slogan « Hommage à la vie, préparons la suite ensemble ». En effet, dans cet espace, les clients sont invités à organiser leurs propres obsèques. Toutes les demandes peuvent être satisfaites, même les plus singulières, du moment que l'on respecte les lois et qu'on en a les moyens aussi. Alors pour m'en faire une idée, j'ai donc assisté à l'élaboration d'un contrat obsèque.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Je suis très contente de vous accueillir et qu'on puisse voir avec Franck Jarratin comment est-ce que les choses pourraient être possibles. Quels sont les souhaits que vous avez et quelles sont d'ailleurs les préventions d'ores et déjà que vous avez prises, vous avez déjà anticipé un certain nombre de choses.
J'ai eu une fille assez tumultueusement merveilleuse, puisque j'ai vécu au Japon, j'ai un père autrichien. Donc la question que je me pose finalement, c'est où pourrais-je donc aller ?
Alors justement, dans l'organisation de la dernière cérémonie, nous proposons chez Alteriva d'organiser une cérémonie quand vous êtes à Paris et vous assistez à la cérémonie par un système, tous les moyens que nous avons aujourd'hui de vidéo, bien évidemment, qui vous permet de suivre la cérémonie avec votre famille dans une autre ville ou dans un autre pays.
Ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Il faut vivre avec les moyens de ce monde, de plus en plus avancés. Et j'avoue, avoir mon enterrement sur l'ordinateur, on le fait sur YouTube, je trouve que c'est très chic.
Ben voilà, c'est absolument parfait.
Est-ce que dans votre idée, ça induit un parti pris de couleur pour la cérémonie ?
Le noir et blanc, je trouve ça d'une élégance extrême.
Vous êtes venu préparer vos obsèques de votre propre initiative ou bien on vous a encouragé à le faire ?
Alors, de ma propre initiative, mes parents ont anticipé, si je puis dire, leurs obsèques. Et ils m'ont dit que peut-être ça serait pas mal que je m'occupe moi aussi de faire les choses comme il faut.
Et alors, est-ce que ça vous semble naturel de venir préparer vos funérailles de vous-même aujourd'hui ?
Tout à fait, la vie va très très vite. Donc il ne faut pas se laisser dépasser par, je dirais, des problèmes d'intendance.
Vous êtes en parfaite santé et pour autant, vous anticipez votre départ.
C'est comme ranger sa maison quand on part le matin. J'ai toujours été élevée, on ne quitte pas la maison sans avoir fait son lit. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Quelle somme êtes-vous prête à dépenser pour votre propre cérémonie ?
Aucune idée. Le budget sera celui que l'on va me préparer, qui correspond à ce que j'ai envie.
Merci beaucoup. Bon après-midi et à plus tard.
Vous avez écrit votre messe d'enterrement très jeune.
Oui, j'ai écrit ma messe d'enterrement il y a 30 ans. Et ce qui va terriblement, d'ailleurs, soulager la vie de mes proches. Puisque comme nous savons, et nous l'avons évoqué tout à l'heure, 6 jours pour organiser une cérémonie, quand on est dans la peine et le chagrin, c'est vraiment une véritable épreuve.
Dans votre bureau, là, au-dessus de vous, il y a justement un peu un CV ou un récapitulatif de votre carrière. Pendant 30 ans, vous avez été à la direction de la communication, par exemple d'Air France, de la FNAC, de Cartier International. Est-ce que les funérailles, c'est un marché comme un autre ?
Alors, le monde du funéraire est absolument un marché comme un autre, avec toutes ses obligations et toutes ses possibilités. Et c'est résolument un marché qui, pour moi, professionnellement, est une synthèse de vie. Parce que si à 55 ans, je me lance dans cet univers-là, c'est que j'ai tellement appris de la vie que j'ai envie de partager avec l'autre ce que c'est que l'hommage à la vie.
Merci Lénora Krief. Thierry, un auditeur sur Internet, nous dit d'ailleurs que la maison Vuitton propose des cercueils sur mesure très haut de gamme à 55 000 euros, nous dit-il. C'est ça, la fondation Vuitton. On trouve quand même moins cher. Lionel Mauguin, on peut mourir pour moins cher, mais je le disais en introduction, 3200 euros, c'est le coût moyen des obsèques. Avec des disparités, comment faire ? Faut-il comparer les prix si on en a le temps ?
Oui, alors évidemment, les circonstances sont
tragiques.
Sont tragiques. Et donc, ce n'est pas évident de donner des conseils. Mais enfin, bon, cette émission permet de le faire à froid, si j'ose dire. Donc, comme tous les marchés, il faut comparer les prix. Vous déplorez un décès, il faut faire des devis à différents opérateurs. Alors, le problème, c'est que normalement, il y a un devis qui doit être conforme à un devis standard. Et le problème, c'est que nos amis de Que Choisir viennent de mettre en évidence que seul un quart des opérateurs faisaient des devis conformes. Donc,
oui, parce qu'après coup, voilà, c'est plus compliqué problème de réclamer, hein, évidemment.
Et oui.
On est rarement en mesure de poursuivre son entreprise de pompes funèbres qui a fait des dépassements de coûts.
Voilà, faites 2 ou 3 devis.
Par Internet ?
Oh non, si vous êtes dans une petite ville, vous connaissez les pompes funèbres, les opérateurs. Alors, il n'y en a parfois qu'un ou deux, malheureusement. Mais enfin, il faut se déplacer. Et puis, c'est des choses... On est dans une période où on est éploré et donc on a besoin de contact humain et on a envie du mieux pour le défunt et en même temps on se rend compte que ça coûte très cher, on n'a pas forcément les moyens. Alors un conseil pratique aussi, la loi permet de prélever 5000 euros sur le compte du défunt si celui-ci est suffisamment garni et si vous le voulez. Donc ça c'est un conseil pratique qu'il faut savoir.
Guillaume Bailly, vous considériez qu'il fallait se déplacer pour voir qui va procéder à l'enterrement, que le contact humain est effectivement indispensable et que du coup Internet n'est pas la panacée pour comparer les prix.
On verra sur le long terme. Monsieur Michel Nérard n'est pas du tout d'accord avec moi. Je crois que l'expérience nous dira ce qu'il en est. Il y a certainement des personnes qui sont à l'aise avec Internet. Moi, je préfère le côté humain. Ça dépend de chacun. Je mettrai de l'eau dans mon vin là-dessus.
François Michel Nérard.
Alors, je vais essayer d'élargir un peu les conseils qu'on peut donner. Premièrement, savoir qu'on n'est pas pressé. Il y a 6 jours pour organiser les obsèques. Donc, il faut savoir prendre son temps. Deuxièmement, se faire accompagner par quelqu'un qui n'est pas dans le deuil. Ça permet de pouvoir prendre distance et de passer à voir. Effectivement, faire jouer la concurrence. Il y a des services publics, il y a des services des entreprises privées. Je pense qu'il faut voir les deux. Et puis, ne jamais accepter un devis qui est sur manuscrit, sur un bout de papier, parce que ça n'est pas un devis réglementaire et c'est absolument anormal. Et puis ensuite, il y a effectivement, je pense qu'Internet peut jouer. Il y a des sites sur lesquels on peut parfaitement organiser ses obsèques comme révolution-obsèques.fr. On peut organiser ses obsèques sur Internet, sans être en face de quelqu'un qui va vous culpabiliser parce que vous prenez un cercueil pas suffisamment cher, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces moyens-là.
On va continuer à évoquer les pièges que la mort nous tend. Tout de suite après le disque, on aura également le jeu concours qui permet d'avoir un petit voyage avant le grand voyage. Un cadeau de notre partenaire, le magazine Avantage. Il faudra reconnaître un mort dans un film célèbre. Mais tout d'abord, Jane Birkin nous donne les clés du paradis.
Juste un petit peu rouillé. Je les ai trouvés dans la rue. Je sais, ça semble incongru. Elles traînaient lent. Je les ai empochées. On peut rien me reprocher. Je suis pas la plus jolie du lot, mais j'ai un fameux trousseau. Les clés du paradis. J'ai les clés du paradis. Évidemment, ça me réconforte. J'ai les clés du paradis. L'ennui, c'est que je trouve pas la porte. Est-ce bien la peine que je torture 36 milliards d'une serrure? C'est sans espoir, j'y gagnerai rien, tout juste un bon tour de rein. Je suis pas la plus maligne du lot. Je fais quoi avec ce bibelot? Les clés du paradis.
Prévision de la Toussaint, debout les morts dans service public sur France Inter. Mourir, ça coûte cher et ça pollue. On en parle avec Guillaume Bailly, qui est croque-mort et qui publie Mes sincères condoléances aux éditions de L'Opportun. François Michaud-Nérard, qui est directeur général des services funéraires de la ville de Paris et qui publie Une révolution rituelle. Brigitte Sabatier, d'Abbé Crémation, qui propose des cercueils en carton. Et Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs. Nous avons un auditeur, Christian, au 01 45 24 7000. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans une entreprise de pompes funèbres, c'est-à-dire dans le sud de la France. Donc, un beau jour, j'en ai eu... Bon, c'est vrai que c'était pas toujours facile. Et un jour, j'ai démissionné parce que, bon, à force de tous les jours, de voir des personnes mortes toute la journée ou tous les jours, quoi. Et bien, j'ai démissionné de cette entreprise parce que, bon, les gens me disaient autour de moi, dans ma famille ou mes amis, ouais, toi, vous travaillez dans une entreprise sans funèbre, bon, c'est cher, vous êtes des voyous, des bandits, alors que c'est totalement faux parce que j'ai travaillé 15 ans là-dedans et je peux vous dire que les obsèques, c'est peut-être cher, mais on accompagne les familles, on se plie pour les familles et on leur conseille et
oui, on imagine qu'effectivement c'est plutôt compliqué. Je ne sais pas si vous nous appelez de l'au-delà, mais la ligne est plutôt mauvaise. En tout cas, c'est un point commun dans vos deux ouvrages, Guillaume Bailly et François Michaud-Nérard. Travailler dans ce domaine-là vous attire un certain nombre de questions lors des repas. C'est pas toujours facile avec les filles. Expliquez-vous, Guillaume Bailly.
Oui, bon, c'était du temps où j'étais célibataire, ce n'est plus le cas aujourd'hui. À une soirée, j'avais rencontré une charmante jeune femme avec qui nous avions discuté un long moment. Et lorsqu'est venu le moment d'annoncer ce que je faisais comme métier, je lui ai dit que j'étais croque-mort. Elle s'est levée, elle est partie. Sans explication, sans un mot, voilà.
François Michaud-Nérard, c'est une profession qui souffre d'une mauvaise réputation.
Oui, c'est une profession qui souffre souvent d'une mauvaise réputation, mais c'est la mort qui souffre souvent d'une mauvaise réputation.
Elle est justifiée.
Donc, c'est peut-être cette parenté qui est problématique. C'est vrai que on ne connaît pas suffisamment la difficulté du métier des professionnels qui travaillent sur le terrain, qui sont en contact avec les corps, et pour qui c'est difficile, parfois, de revenir à la maison. Donc, il faut surtout, je pense, penser que ce sont des gens qui font quelque chose d'essentiel, d'utile à la société et qu'il faut valoriser ces professions.
Et pour aider à supporter le long voyage, je le disais en introduction de l'émission, nous allons, grâce à notre partenaire, le magazine Avantage, vous permettre de gagner un week-end dans les relais et châteaux du Pays de Loire. Et pour ce faire, il va vous falloir reconnaître le mort dans un extrait de film en envoyant la réponse par mail à servicepublic@radiofrance.com. Voici l'extrait de ce film archi connu.
Ah, bien, arrêtez de me viser, vous!
Ah oui, Félix, ça suffit, jouer avec les armes à feu, donnez-moi ça. C'est confisqué.
Oh.
Mais c'est pas confisqué qu'il faut, c'est vide le déchargeur.
Qui a vidé le déchargeur? Vous nous donnez la réponse par mail à l'adresse servicepublic@radiofrance.com. Un autre auditeur est au standard. Bonjour, nous vous écoutons.
Bonjour.
Bonjour Martine.
Bonjour. Moi, ma question, c'est pour quelle raison, lorsqu'on s'intéresse justement au cercueil écologique, il nous est impossible de pouvoir commander ceci. Il m'a été répondu une première année que ça n'était pas homologué, et les années suivantes que l'équipement des crématoriums n'était pas fait pour pouvoir pousser un cercueil en carton, du fait que ça aurait pu passer au travers, ou enfin d'autres raisons aussi idiotes que celle-là. Pour quelle raison, dans ce cas, si c'est la réalité, les chambres crématoires ne sont pas équipées de ce qu'il faut?
C'est une très bonne question à laquelle va répondre Brigitte Sabatier, puisque Brigitte Sabatier, vous commercialisez par votre société AB Crémation des cercueils en carton.
Alors, il faut savoir que le cercueil en carton a fait l'objet d'un agrément, hein, 12 mai 98, qu'il est effectivement homologué et qu'on a passé une batterie de tests justement pour rassurer la profession. D'abord la profession, parce qu'il fallait séduire cette profession pour pouvoir accepter qu'il soit commercialisé sur toute la France. Donc, depuis 2008, je propose ce cercueil qui marche très bien dans pas mal de départements. Il faut savoir
c'est
que...
un cercueil qui marche.
C'est un cercueil, oui, si vous voulez. Il faut savoir que j'ai souhaité que ce cercueil soit dans un premier temps écologique, mais aussi économique. Tout ce qui est innovant fait peur. Donc ça a été, voilà,
là, dans ce
depuis
domaine-là.
6 ans, on me rabâche les mêmes choses, retour de flamme, etc. Je pense que les tests du FCBA, je vous rappelle que le FCBA sont quand même des spécialistes.
Qu'est-ce que c'est que le FCBA ?
Le FCBA, ce sont des laboratoires qui sont mandatés par la norme AFNOR et qui testent les meubles en bois. Voilà. D'accord. Il n'existe pas d'autre laboratoire, en tout cas, on ne me l'a imposé. Donc, j'ai fait passer ces tests par le FCBA à Paris. Et donc, on a pu effectivement conclure qu'il était au-delà. La normalisation que prévoit cette réglementation, justement, il faut une poussée de 97 kilos. Voilà. Le cercueil allait bien au-delà. À 157 kilos, il n'y a pas eu de rupture. Donc, si vous voulez, petit à petit, on y arrive. Il y a de moins en moins de rumeurs. En tout cas, j'invite les professionnels à un peu mieux se renseigner et à changer leur discours. Et là, je m'adresse à M. Michonnerard en face de moi. J'espère qu'à Paris, on trouvera
des
très bientôt...
Des cercueils en carton. Combien ça coûte
répondre.
Un cercueil en carton?
Alors moi, je suis le fabricant. Donc je le vends, si vous voulez, à mes clients qui ne sont uniquement des pompes funèbres, au même tarif. Donc on a un panel très large. On démarre du craft jusqu'à la personnalisation, puisque je personnalise énormément.
Si on veut
énormément.
Finir dans du craft, combien
Écoutez,
ça coûte, Brigitte?
Alors, si on veut finir dans du craft, le prix du cercueil dans les départements où je suis basée est facturé à 299 € TTC.
C'est un peu plus cher qu'une enveloppe, mais c'est moins cher qu'une valise en carton. François Michonnerard, on voit qu'il y a énormément de règles, de lois concernant la mort et le cercueil en est une. Quelles sont les réticences aujourd'hui à l'égard de ces procédés plus écologiques? Car nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous disent, voilà, la crémation avec un cercueil en bois doté de solvants nocifs, ça n'est pas raisonnable.
Alors, on est tout à fait ouvert aux cercueils en carton et d'ailleurs... Tous les fabricants, d'ailleurs les trois fabricants français qui existent, sont venus au crématorium du Père-Lachaise faire des essais. Il y a actuellement un certain nombre de cercueils qui posent des problèmes. Un, parce qu'ils n'ont pas de poignée, donc il y a des problèmes de sécurité pour le personnel. Et deuxièmement, parce que dans certains crématoriums, pas dans tous, il y a des problèmes de dispositifs d'introduction. Il y a parfaitement des modèles. Enfin, moi, on a essayé la semaine dernière. Il y a
Vous
eu des essais.
Le,
il y a eu des essais. Donc,
carton.
Il y a des cercueils en carton qui vont fonctionner et qui vont être sur le marché. On les acceptera tout à fait volontiers.
Ça, c'est une très bonne nouvelle.
On va continuer à évoquer la mort et à explorer l'au-delà, mais cette fois-ci avec les assurances obsèques, puisque pour ne pas payer trop cher lorsque le moment du grand voyage est venu, peut-être vaut-il mieux souscrire une assurance. On va voir ça immédiatement après Leonard Cohen, Almost Like the Blues.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
I saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture, and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know.
But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Almost like the
Debout les morts, il va falloir payer ses dents service public sur France Inter. Nous évoquons les différentes dispositions qu'il faut prendre avant le décès, notamment les assurances décès. Faut-il en conclure une? Mais avant tout, pour préparer le grand voyage, voici le petit voyage que nous faisons gagner ce matin dans service public avec un mort dans un film célèbre à reconnaître. Le premier extrait de ce film était celui-ci.
Ah bien, arrêtez de me viser, vous!
Oui, Félix, ça suffit, je joue avec les armes à feu, donnez-moi ça. C'est confisqué.
Oh.
Mais c'est pas confisqué qu'il faut, c'est vide le déchargeur.
Quel personnage est mort dans cet extrait de film? Un second extrait?
Josette, arrêtez ça! Prends-moi ça!
Ne lâche pas!
Arrêtez! Chouchou! Arrêtez! Arrêtez!
Qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas. Voilà! Comme ça, il ne fera plus mal à personne, je suis là.
Donnez-moi ça!
Vos réponses à l'adresse servicepublic@radiofrance.com. Et maintenant que nous avons vu quel cercueil choisir et comment se méfier des pompes funèbres, nous avons la possibilité de souscrire des assurances qui permettent en quelque sorte d'amoindrir le coût des assurances obsèques. Quel est votre avis au sujet de ces assurances, Lionel Mauguin?
Ben justement, pour éviter que sa famille soit confrontée à des choix difficiles au moment des obsèques, il existe donc des conventions obsèques qui permettent de préparer sereinement ce jour J.
Sereinement, je ne sais pas, mais en tout cas, quand je regarde le tableau que vous avez fait paraître dans 60 millions de consommateurs, il y a des choses qui ressemblent quand même un peu à des arnaques. Par exemple, à la caisse d'épargne, on vous propose un capital garanti de 3 000 à 8 000 euros pour une cotisation unique de 3 853 euros. C'est-à-dire que le capital garanti est à peu près aussi élevé que la somme que vous versez de manière initiale. C'est normal, ça, Lionel?
Non, c'est pas normal, mais alors... Je serais venu ici uniquement pour dénoncer les abus. Malheureusement, il y en a effectivement dans ce genre de contrat. Alors, il y en avait beaucoup plus avant, parce qu'avant, les conventions obsèques consistaient notamment à prévoir un capital qui était versé à un bénéficiaire, quelqu'un de la famille, et celui-ci n'était pas obligé de consacrer cet argent aux funérailles. Donc, il y consacrait l'argent qu'il voulait, s'il voulait. Donc ça, c'était... Un dispositif assez incroyable. Ça a été normalement réglé par la loi de l'an dernier, la loi bancaire, qui oblige le bénéficiaire à utiliser cet argent pour financer les obsèques, évidemment, du souscripteur. Donc c'est la moindre des choses. Et puis il y avait un autre type d'abus. Quand le bénéficiaire était l'opérateur funéraire, on était pieds et poings liés. On ne pouvait pas changer de prestation et ni d'opérateur. Aujourd'hui, on peut changer de prestation et d'opérateur. On peut revenir si on a changé d'avis. Donc il y a des choses positives qui sont arrivées. Malheureusement, certaines compagnies d'assurance ne sont pas à jour de ces nouvelles règles. Par exemple, AG2R, la mondiale, n'a pas mis à jour ces conventions obsèques, et c'est quand même incroyable que plus d'un an après la nouvelle loi, on ait encore des documents comme cela.
Avec des prix très divers, puisque pour obtenir des obsèques d'un montant de 4000 euros, je rappelle qu'en moyenne, des obsèques coûte 2 mois de salaire, 3 200 euros en France, eh bien, il faut verser à l'âge de 75 ans une rente viagère qui va de 37 euros pour Groupama à 53 euros pour AG2R La Mondiale. Donc la mort, là aussi, il y a des inégalités, des différences de tarifs. François Michaud-Nérard.
Oui, et puis un certain nombre de conseils, là encore. Premier conseil, s'assurer de la faisabilité de ce qu'on prévoit pour les obsèques. Donc rencontrer un conseiller funéraire professionnel qui va pouvoir, par exemple, bloquer une place dans une sépulture de famille pour s'assurer qu'il y en aura une disponible le moment venu. Deuxièmement, penser aux vivants. C'est bien d'organiser ses obsèques, mais en général, on ne pense pas forcément à ce dont auront besoin les autres. et donc ne pas trop imposer. Troisièmement, penser au être prudent sur la revalorisation, parce que un contrat d'OSEC, c'est un contrat qui va durer longtemps. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup d'inflation dans le domaine funéraire, il faut qu'il soit revalorisé. Et puis enfin, il faut enfin que les autorités mettent en place le fichier des assurés qui est prévu par la loi et qui n'est toujours pas là, 5 ans après la loi.
Très important, justement, pour rebondir, dites à vos proches que vous avez souscrit. Et c'est vrai qu'il n'existe pas de fichier, donc dites à vos proches.
Parlez à vos proches avant, parce que après, ça sera trop tard. Jean-Pierre est au 01 45 24 7000. Bonjour Jean-Pierre.
Allô ?
Jean-Pierre, si vous êtes encore là, parlez-nous,
oui,
Jean-Pierre.
Je suis là. Ce que je voulais poser comme question, c'était quelles sont les démarches à effectuer et quelle sera la difficulté à être incinéré ailleurs que dans les crématoriums traditionnels. Surtout si...
Est-ce que vous voulez vous faire incinérer où, Jean-Pierre ? Jean-Pierre, vous voulez vous faire incinérer où exactement ?
Dans une chaudière bois.
Ah, alors, tout le monde me dit non, Jean-Pierre, pas dans une chaudière bois. François Michaud n'est rare.
Oui, non, la réglementation est très claire.
Vous allez boucher la chaudière, Jean-Pierre. Voilà.
La crémation et pas l'incinération a lieu dans un crématorium et pas dans un incinérateur, ni dans une chaudière. C'est vraiment un établissement qui est réservé pour les humains, avec un traitement digne des cendres, qui permet derrière le souvenir. Donc, c'est vraiment important que ce soit comme ça.
Je pense qu'il faut rappeler que la mort en France est un secteur extrêmement réglementé, François Michonnera.
Oui, il y a une réglementation qui est extrêmement contraignante, mais en même temps, c'est normal parce que les gens, quand ils viennent de perdre un proche, ils sont déboussolés, ils sont en manque de repères. Donc, il y a besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et la loi, la réglementation est faite pour ça.
Guillaume Bailly, on sait aussi que la mort est un moment de grande tension. Vous racontez dans l'ouvrage que vous avez consacré à la mort et qui permet donc de découvrir aussi les perles des vivants, puisque finalement tout ceci ne concerne que ceux qui restent. Mes sincères condoléances.
Les morts ne font
pas
grand-chose, en effet.
Des moments extrêmement violents et extrêmement tendus dans les cimetières. Une raison pour laquelle il vaut mieux planifier ses obsèques longtemps à l'avance, dites-nous.
Oui, c'est pas que les obsèques créent des tensions, c'est qu'elles exacerbent des conflits familiaux qui peuvent être préexistants. Donc là, dans mon livre, il y a l'exemple extrême de ce frère et cette sœur qui ne s'adressent plus la parole depuis des années, qui doivent ensemble organiser et assister aux obsèques de leur père, et qui finissent par se donner des grandes baffes dans la figure en pleine église, au-dessus du cercueil du dit père.
Donc, voilà. Qui évidemment ne se fait pas. Comment faites-vous, vous qui êtes croque-mort et qui accompagnez chaque jour ces cérémonies, comment faites-vous pour à la fois apaiser la peine de ceux qui restent et puis aussi peut-être aplanir les tensions familiales, Guillaume Bailly?
La polyvalence, en étant conseiller un petit peu, pas conjugal, mais conseiller psychologique, en essayant d'appeler chacun à être raisonnable. Et puis, l'autre aspect de notre métier, c'est un petit côté casque bleu. Des fois, c'est vrai que quand faut y aller, comme dans...
C'est si fréquent que ça ?
C'est pas fréquent, mais ça arrive. Souvent, on en reste aux insultes de loin, aux interjections. Voilà, mais dans beaucoup de familles, on sent des tensions, mais les gens arrivent à être raisonnables au moment des obsèques et à s'entendre. Au contraire, c'est un moment idéal pour se réconcilier. Mais parfois, ça n'est pas possible.
François Michaud Nérard, avec la montée en force de l'incinération, avec
la crémation,
avec la fin des rituels, puisque nous vivons dans un pays de plus en plus laïque, où la religion a de moins en moins sa place pour un certain nombre de vivants, on assiste évidemment à de nouvelles cérémonies funéraires.
Oui, 85% des Français ne sont pas pratiquants d'une religion. Donc, au moment de la mort, et puis il y a des religions nouvelles, diverses en France. Il y a des familles multiculturelles, multiculturelles. Et donc, elles ont besoin de trouver... c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas besoin de rites. Et donc, il appartient aux professionnels de pouvoir leur proposer des cérémonies civiles, des cérémonies laïques, qui peuvent avoir beaucoup de sens et qui peuvent être organisées dans les crématoriums, par exemple, avec des vrais maîtres de cérémonie qui sont formés. Un des problèmes que l'on a, c'est que quand il y a un enterrement, on part directement de la chambre mortuaire, de l'hôpital ou de la chambre funéraire pour aller au cimetière. Et là, souvent, on n'a pas de lieu, on n'a pas de salle pour pouvoir organiser ces cérémonies laïques. Donc je pense que c'est vraiment un problème dont doivent se saisir les autorités municipales, notamment, pour créer des salles et créer des lieux où peuvent se dérouler ces cérémonies.
Christophe nous demande s'il existe encore une fosse commune et si celle-ci est payante.
On appelle ça le carré commun aujourd'hui, en fait.
Pardon, le carré commun.
Le carré commun, c'est-à-dire que ce ne sont plus des grandes fosses communes, c'est un carré dit des indigents, où chacun est inhumé dans une sépulture individuelle.
Ça veut dire qu'on peut se faire évidemment enterrer, même si on est indigent et impécunieux.
Tout à fait.
Oui, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas réservé aux indigents. Le droit commun, c'est la gratuité d'une sépulture au cimetière pour une durée minimum de 5 ans. La concession n'est qu'une possibilité offerte pour les communes. Donc chacun peut avoir le droit à une sépulture gratuite dans une commune.
Et aussi à un cercueil en carton, Brigitte, si on veut donc avoir recours au service d'AB Crémation qui va donc vous permettre de bénéficier d'un cercueil en carton. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle que le gagnant, comme vous l'aviez probablement deviné, est le réparateur d'ascenseur dans Le Père Noël est une ordure. Et c'est Erle Louboutin qui gagnera ce petit voyage relais château un week-end offert par le magazine Avantage dans la région des châteaux de la Loire. Tout de suite après le flash, le voyage se poursuit en compagnie de Nagui qui reçoit Yves Candebord pour Frères de Terroir.